When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir, le coup d'envoi de Soir Info, jusqu'à minuit sans aucune interruption, en compagnie de Gabriel Cluzel ce soir. Bonsoir cher Gabriel, très heureux de vous retrouver. Pierre Lelouch est à vos côtés. Bonsoir Pierre, ancien ministre, spécialiste de politique internationale. Jean-Claude Dacier est notre chroniqueur politique maison qui est parmi nous aussi. Bonsoir cher Jean-Claude. Régis Le Sommier, qui a mis sa cravate ce soir. C'est impressionnant, hein. J'ose à peine vous regarder dans les yeux, vous êtes d'une élégance.
Merci.
On est ensemble donc jusqu'à minuit, évidemment, pour balayer toute la actualité, en commenter les traits principaux et ce qui a retenu notre attention ce soir dans un premier temps, c'est bien sûr ce soutien de la France pour l'Ukraine qui a été débattu aujourd'hui, donc pendant de longues heures à l'Assemblée nationale, les députés qui discutaient des fameux 3 milliards d'aides versées à Kiev par Paris. Alors c'est un vote symbolique qui n'a aucune conséquence, mais surtout on peut y voir, et ça on va en discuter ensemble, une forme de piège tendu par la majorité aux oppositions pour clarifier leurs positions, les positions des uns et des autres. Pour en savoir plus sur ce vote donc approuvé par l'Assemblée pour une large majorité, on retrouve Élodie Huchard à l'Assemblée.
Une très grande majorité à l'Assemblée pour cet accord de solidarité avec l'Ukraine. 372 voix pour, 99 voix contre. Il faut rappeler que c'était avant tout un vote symbolique, qui n'avait pas de valeur contraignante. Mais le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans une interview, expliquait quand même que ce vote avait son importance et, je le cite, permet la clarté sur cet accord. Parmi ceux qui ont voté pour, évidemment, la majorité, mais aussi les Républicains, les Socialistes et les Écologistes, même si un certain nombre de prises de parole à la tribune ont montré des réserves. Cyrielle Chatelain, par exemple, pour les Écologistes, explique qu'il ne faut plus participer à l'économie russe. Olivier Marleix, pour les Républicains, explique que la ligne rouge serait d'envoyer des troupes au sol. Le Rassemblement national, lui, s'est abstenu. Du côté de la majorité, on explique que ce vote serait lié avec des liens supposés avec la Russie. Et puis, parmi ceux qui ont voté contre, la France insoumise et les communistes a noté cette prise de parole de Fabien Roussel. Il explique qu'il dénonce les positions, je cite, « va-t-en-guerre » du président de la République, qu'il ne faut évidemment pas envoyer de troupes au sol. Rien ne justifie qu'on laisse notre jeunesse dans cette folie meurtrière, a-t-il dit. Maintenant, prochaine étape, ce mercredi, au Sénat, le même débat avec un vote toujours symbolique.
Et avant d'entamer les discussions, je voudrais que vous entendiez ce premier extrait du Premier ministre qui a tenu un long discours avant le vote et les prises de parole des différents chefs de parti. Il avait un message à envoyer à l'hémicycle du plus profond de son cœur.
Si l'Ukraine perd, nous perdons nous aussi. Nous ne laisserons pas la Russie gagner. La France ne peut s'effacer devant ses responsabilités. Alors, Je le dis ici, en tant que Premier ministre de la France, au nom du gouvernement de la France, à la tribune de l'Assemblée nationale de la France, je le dis au plus profond de mon cœur, qui résonne et qui bat pour la valeur de liberté des peuples, je le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français, Slava Ukraini!
Jean-Claude Dacier, un premier commentaire. Le camp présidentiel qui, c'est l'impression qu'ont eu certains, a décidé de faire un grand spectacle autour de la question de l'Ukraine en vue des Européennes en disant « si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes tout simplement contre nous ».
C'est vrai qu'il y avait un piège assez évident dans ce débat à l'Assemblée nationale. Moi, je suis toujours un peu choqué par cette situation. Je comprends les impératifs de la politique française, mais tout de même, on parle de l'Ukraine, là. D'une guerre qui est, non pas à nos portes, mais enfin, qui en est pas loin. Et donc, on se serve un peu de manière très, très, très visible de ce débat pour essayer de faire tomber les extrêmes ou de les obliger à faire un choix. Ça me choque un peu, même si je dois reconnaître que ça a plutôt fonctionné. On va sans doute y revenir, ça va être l'objet de ce début des discussions entre nous. Je risquerais quand même que j'ai globalement été un peu déçu. Il y a eu deux bons discours et deux grands discours qui étaient ceux de Gabriel Attal. On en a écouté un extrait tout à l'heure. Et puis celui de Marine Le Pen.
On va entendre aussi.
Oui, qui était pas mal non plus. Mais néanmoins,
Le RN qui s'est abstenu dans ce vote.
Elle s'est abstenue, elle a expliqué pourquoi, pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Elle continue de surfer avec le Rassemblement national sur les peurs, sur les mécontentements qu'il peut y avoir dans ce pays, et Dieu sait qu'il y en a. Néanmoins, moi, il me semble, on va en débattre, que quand on est patronne d'un grand parti comme le Rassemblement national, et que sur
le RN, comme d'autres d'ailleurs, LFI ou le PC qui ont voté contre, n'avaient pas envie de tomber dans ce piège tendu par la majorité présidentielle.
On a peu de chances de voir Roussel président de la République. Je ne veux pas lui faire injure. En revanche, Marine Le Pen, tout le monde a l'air de dire en ce moment qu'elle a ses chances pour 2027.
Bah, elle a surtout ses chances. Enfin, le RN a surtout ses chances aux européennes avec des sondages très avantageux.
Le Rassemblement national, on verra les résultats effectivement aux européennes. Elles sont prometteuses, mais on verra. Mais honnêtement, qu'une grande patronne d'un grand parti ne soit pas en mesure ou capable de prendre une décision claire, je suis pour ou je suis contre, dans un débat aussi important que celui de la guerre en Ukraine, et j'en termine là, il me paraît devoir durer encore très longtemps, parce qu'on n'aperçoit pas le bout du bout d'une négo et d'une discussion possible entre les deux guerres, entre les deux partis, ça me gêne. Et je pense que globalement, Marine Le Pen n'a pas marqué de point cet après-midi, ou alors c'est un point négatif.
Mais c'est vrai que l'impression qui reste, c'est qu'à travers notamment le discours du Premier ministre aujourd'hui, ce sont ces attaques subliminales à l'endroit du Rassemblement national qui retiennent l'attention. Avant de poursuivre, regardez ce deuxième extrait avec Gabriel Attal, qui avant le vote dit donc, et d'une façon subliminale encore une fois, c'est le Rassemblement national qui est visé, s'abstenir, c'est fuir.
Voter contre ? C'est remettre en cause le travail et les efforts accomplis par la France et ses alliés depuis 2 ans. Voter contre, c'est donner à Vladimir Poutine tous les arguments et un signal qu'il espère et qu'il attend. Voter contre, c'est affirmer que les règles internationales peuvent être bafouées sans conséquences ou réponses claires de notre part. Voter contre, c'est signifier à nos alliés que la France tourne le dos à son engagement et à son histoire. Je le dis également, s'abstenir, c'est fuir. Fuir ses responsabilités devant l'histoire. Trahir ce qui nous est de plus cher depuis le 18 juin 1940, l'esprit français de résistance.
Pierre Lelouch, je vous ai vu battre un peu la mesure il y a un instant lorsqu'on réentendait Gabriel Attal. Stratégie, c'est vrai que c'est un peu binaire. Il devrait y avoir peut-être dans un moment comme celui-là et sur une question comme celle-là, peut-être un petit peu plus de place pour la nuance. Tout n'est pas noir ou blanc.
Et peut-être aussi pour la hauteur de vue. Je vais peut-être commencer par là. Parce que ce traité est important en soi.
Il a déjà été signé d'ailleurs.
Oui, il a été signé, mais enfin, il fait partie d'un paquet qui a été décidé à Vilnius l'été dernier, quand les Américains ont interdit à l'Ukraine d'accéder à l'OTAN, ce qui ne manque pas de sel, puisque toute cette guerre a pour origine cette affaire d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais l'Ukraine étant en guerre, les Américains ont mis leur veto. Donc, il a été décidé qu'il y aurait des garanties bilatérale de sécurité de la part d'un certain nombre de pays. Les Américains n'ont pas encore signé d'ailleurs ce type d'accord parce que le Congrès, c'est une autre affaire. Et il n'y a pas le consensus pour le faire aux États-Unis. Par contre, les Allemands, les Anglais et maintenant les Français l'ont fait. Alors moi, je suis un des rares sans doute à avoir lu ce traité, la plume à la main, deux fois pour voir ce qu'il y a dedans. Bah, en fait, ce sont surtout des déclarations de principe, des engagements à 10 ans.
Et un engagement concret sur 3 milliards d'euros.
Alors, j'y viens. J'y viens. Et là, je vais peut-être faire un peu de technique parlementaire, mais c'est très important.
Alors, le plus débat vulgarisé possible, si possible.
Oui, non, mais vous allez comprendre pourquoi c'est fondamental, ce que je vais dire. Le débat a été organisé à l'initiative du gouvernement sur la base de l'article 50-1 de la Constitution. C'est-à-dire, c'est un vote sur une déclaration et un vote qui n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Or, ce traité, précisément parce qu'il prévoit 2,7 milliards l'année dernière et 3 milliards cette année, relève de l'article 53 de la Constitution. Personne ne l'a dit jusqu'à présent, pas plus d'ailleurs mes collègues actuels députés, ce qui me consterne, parce que c'est un problème de fond. L'article 53,
que dit-il ?
Il dit que quand les finances de l'État sont engagées, il faut une loi de ratification et donc un vote contraignant de ratification. Si on a
ce traité est illégal, selon la loi française ?
Non, ça veut dire que cet argent, en fait, il n'est pas voté. On parle de 3 milliards, mais c'est 3 milliards qui flottent dans l'air, puisque tant que le Parlement n'a pas...
Et les 2,7 milliards de l'année dernière ont-ils été votés ?
Idem.
Et pourtant, ils sont parvenus à l'Ukraine.
C'est à voir parce que les chiffres ont été un tout petit peu gonflés sur l'évaluation des matériels qu'on a livrés. Mais supposer que ce soit exact, il n'y a pas de fondement juridique au transfert de ces armes ni au déboursement de cet argent. Pour que cet argent soit déboursé, il faut que le Parlement le vote. Si on avait été devant le Parlement en disant « Mesdames, messieurs, vous allez voter pour 2,7 plus 3 milliards »,
on n'aurait peut-être pas eu le même vote.
Je pense que le débat aurait peut-être été un tout petit peu plus compliqué. Et donc, on a eu un tour de passe-passe. Et c'est là qu'on glisse dans la politique intérieure. On voit bien qu'il y a des enjeux majeurs de politique étrangère, qu'on ne conteste absolument pas, et cet accord était nécessaire dans la situation présente. Mais la façon dont ça a été fait montre bien que derrière, il y avait cette volonté d'être... Vous êtes pour Macron ou pour Poutine,
c'est ça.
Au choix.
C'est ce que
et, là, et là, ça bascule dans du grand n'importe quoi, dans De Gaulle, le 18 juin, Danzig, Munich, Chamberlain et Daladier, tout ce qu'on veut.
Évoqué par Mme Ayer, la candidate Renaissance ce week-end.
Hier, ou avant-hier. Tout ça est juste pathétique. Je pense que le président va en mettre une couche, d'ailleurs, jeudi soir, puisqu'il s'invite à la télé pour nous expliquer ça.
Jeudi soir à 20h, et on débriefera bien sûr, notamment dans Soir Info.
Je vais vous dire, à la fois parce que je travaille beaucoup sur ces questions depuis longtemps et que je tiens à ce qu'il y ait un règlement honnête pour cette malheureuse Ukraine qui ne mérite pas ça, donc il faut l'aider. Mais les Français aussi ne méritent pas un débat de ce niveau, parce que c'est franchement consternant. Et puis quand, comme ancien parlementaire, député honoraire, c'est mon titre, je trouve consternant que le Parlement n'ait pas voté ces crédits. Donc ces crédits sont fantomatiques. Tant qu'ils ne sont pas votés par la représentation nationale, désolé, moi je renvoie à l'article 53... tirer 1, 53. Si un groupe saisit demain le Conseil constitutionnel, il y aura problème parce que
si un groupe nous écoute ce soir sur CNews, peut-être que l'actualité évoluera demain.
D'accord, il devait être ratifié.
On va avancer, Pierre, si vous voulez bien. Voilà. Je voudrais qu'on entende Marine Le Pen qui prit la parole également à la tribune pour justifier donc le fait de ne pas voter cet accord.
Peut-être, Monsieur le Premier ministre, était-ce l'objectif? Vous parez du lin blanc du camp du bien et rejetez l'ensemble des oppositions et donc des millions de Français qu'elles représentent dans le camp du mal, dans un choix indigne que vous semblez vouloir imposer. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine.
Et c'était ça le piège qui s'est refermé donc aujourd'hui sur le Rassemblement national.
Alors c'est vrai que le Rassemblement national est sur une ligne de crête. Il est en pleine ascension et se dit si je bouge d'une oreille, ça peut mal se terminer. Donc de fait, Marine Le Pen est extrêmement prudente. Et vous savez, Jordan Bardella ressemble à ce personnage de Mario Bros. Vous voyez dans les jeux.
Je vois très bien Mario
donc,
Bros.
Au fur et à mesure, il monte, il gravit des obstacles et il a de plus en plus de peau de banane. Vous savez, le rythme du jeu s'accélère. On lui balance de plus en plus de trucs dans les pieds. C'est compliqué.
Je
ne
m'attendais pas à la comparaison, mais continuez.
Ça me fait exactement ça. C'était l'impression que j'ai parce qu'Emmanuel Macron lui a balancé l'IVG. Hop, la séquence était à peine terminée, on est passé à l'euthanasie.
Oui.
Et là, on passe à...
Ça marche bien, Mario Bros, parce que les derniers sondages donnent jusqu'à 13 points d'avance sur le RN, pour le RN, pardon. Et toute la question, Gabriel, c'est ça, et vous la soulevez, c'est dans la majorité, la question c'est comment faire baisser cet écart. C'est la seule chose qui motive le président de la République dans cette séquence, c'est ça qui peut nous choquer.
Pierre Lelouch a dit que c'était pathétique. Moi, je trouve ça assez cynique de se servir de l'Ukraine et de la souffrance des Ukrainiens pour régler des problèmes de politique intérieure. Parce que c'est vrai que le décor est extrêmement binaire. Hein, ça relève plus de Disney où il y a les méchants, les gentils. Si vous n'êtes pas avec les méchants, si vous n'êtes pas avec les gentils, vous êtes très méchants. Donc
ça rappelle un sketch des
Inconnus. Avait dit aucune nuance le gouvernement compte là-dessus pour tirer le fil russe qui est sa ligne rouge depuis le début. C'est le narratif avec ce fil à tirer. Alors Marine Le Pen s'est dit je vais rester je vais m'abstenir, comme ça on pourra pas m'accuser d'être du côté.
Elle a fait le bon choix aujourd'hui, vous pensez?
Et néanmoins écoutez, l'avenir nous le dira, mais elle a fait sans doute le choix de la prudence.
Maintenant il faut se positionner donc dans le camp du bien, dans le camp du mal. Régis, les macronistes, si je
caricature sont les résistants, là où le Rassemblement national, c'est les collabos. Oui, maintenant, vous jouez dans les urnes.
C'est ça, non, mais la stratégie, c'est politiquement, c'est habile. Hein.
C'est habile, ça marche.
C'est une stratégie.
Rendez-vous le 9 juin.
Et surtout, rendez-vous le 9 juin, vous venez de le dire. Il y a trois mois, est-ce qu'on va avoir pendant trois mois d'une campagne de cet acabit?
Moi, la réponse est oui.
Ce qui m'a beaucoup choqué dans ce, je vais vous dire, c'est plus le ton et l'espèce de sonalité factice théâtrale de Gabriel Attal. On avait l'impression que la guerre allait commencer demain et que la France allait rentrer en guerre demain.
Régis, vous qui connaissez bien cette question, pardon de vous interrompre, mais est-ce qu'on n'est pas déjà en guerre contre la Russie?
Non, on n'est pas déjà en guerre contre la Russie, je peux vous dire. Et moi, j'étais sur le front il y a un mois. Mm-hmm. Okay. Quand j'entends, il y a un mois à peu près, la ville d'Avdivka, à l'ouest de Donetsk, est tombée aux mains des Russes. Depuis, les Russes ont grignoté quelques villages. Il y a eu quelques avancées, c'est vrai, des signes de fébrilité chez les Ukrainiens. Mais le président Zelensky, il nous a dit hier, on n'a pas besoin des troupes françaises. Le front ne s'est pas écroulé.
Alors, on va voir ce qu'a dit Zelensky.
Gabriel Attal nous expliquer que l'heure est grave, que ça y est. C'est mentir aux Français. Ça veut dire que c'est mentir. On instrumentalise une guerre gravissime à des fins de base politique. C'est ça qui me choque
profondément. Pour revenir juste sur ce que vous disiez, je vous rends tout de suite la parole. Donc Volodymyr Zelensky, hier, qui répondait à une télé, à nos confrères de BFM, tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français. Ce sont les pays de l'OTAN qui seraient amenés à décider d'envoyer ou pas leur armée. Il ne nous a rien demandé, Volodymyr Zelensky.
Il n'a rien demandé.
Il laisse quand même la porte ouverte à une escalade.
Ça ne va pas exactement dans le sens de Emmanuel Macron. Alors, je vais finir, Régis.
Je termine.
Bien sûr.
Sur l'histoire d'envoyer des troupes au sol, tout le monde, y compris les Américains, plusieurs fois ont démenti Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on est intégralement seul. Et dans l'histoire de pas de limite, c'est pareil. Moi, j'écoutais Fabien Roussel.
Et si je prends le versant opposé, est-ce que ça ne nous honore pas aussi de se tenir droit face à Vladimir Poutine et de mener cette sorte de résistance?
Et j'en reviens à ce que disait Fabien Roussel, avec qui, pour une fois, Fabien Roussel disait, pour une fois, je suis assez d'accord avec lui, dit la guerre s'est invitée dans les foyers des Français. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de limite, ça veut dire qu'on est prêt, peut-être, à soulever, à déclarer une conscription pour envoyer nos troupes. Et c'est pas des forces spéciales qui vont faire la guerre. Il faut arrêter de dire cette espèce de fiction. Cette guerre-là, elle est pas faite par les forces spéciales. Elle est faite par des gens qui tiennent des tranchées, des gens qui essayent de rétablir des positions de défense et qui essayent de grignoter des villages au prix de pertes immenses. C'est pas des opérations coup de poing comme nos forces spéciales très efficaces ont fait en Afrique. C'est de la guerre
longue,
haute intensité. C'est un peu comme si, au bout de deux ans, on était en 1916, après 14, la guerre a commencé en 14, on est en 1916, c'est Verdun, et on va précipiter les Français comme ça, dans cette guerre, c'est mais ça qu'il veut Emmanuel Macron. La vérité de cette guerre, c'est une guerre absolument intense, d'une intensité incroyable, une guerre d'artillerie. Là, on revient à Verdun. Je l'ai déjà décrite comme Verdun avec les drones. C'est exactement ça. Est-ce qu'on a envie que notre jeunesse aille là-bas se sacrifier? Moi, je dis non. Voilà.
Alors, on va répondre à cette question, et Pierre voulait répondre. Est-ce que ça nous, d'une certaine façon, si on essaye d'avoir, messieurs, si on essaye d'avoir une autre lecture de cette séquence politique, est-ce qu'il n'y a pas une façon de dire oui, la France est peut-être seule dans cette séquence, mais on s'honore à vouloir tenir tête à Vladimir Poutine? Vous allez me répondre, Pierre. Je voudrais juste entendre ce dernier extrait de Gabriel Attal, justement, qui nous dit que Poutine, que la Russie n'a aucune limite et que nous devons nous tenir debout face à lui.
En Ukraine, la Russie a franchi toutes les limites. Pas une horreur ne l'arrête. Pas un massacre ne la rebute. Mesdames et messieurs les députés, Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine, mais c'est bien plus largement à toutes nos valeurs qu'il a déclaré la guerre. Par cette attaque, il a voulu changer l'ordre du monde pour imposer sa loi. Pour imposer la loi du plus fort, où n'importe quelle puissance en quête d'affirmation pourrait soumettre une nation libre, soit par le chantage, soit par les armes. Par cette attaque, le Kremlin a voulu ébranler nos valeurs, montrer la faiblesse des démocraties. Ne nous y trompons pas, c'est bien la liberté et le pluralisme qu'il remet en cause. C'est bien nos modes de vie et nos valeurs qu'il agresse et qu'il veut faire tomber.
Pierre Lelouch, il s'agit encore donc de pointer du doigt ce qui serait dans cette faiblesse, cette mollesse face à Vladimir Poutine.
Il y a deux choses qui m'inquiètent dans ce discours. D'abord, c'est le décalage entre la virulence des propos et de la dénonciation de la Russie. Peu partagée, bien sûr.
Et ça nous honore de le dire, haut et fort.
Non, mais d'accord. Mais Le problème, c'est quand vous avez un discours aussi violent, il faut derrière avoir les moyens de faire ce qu'on dit qu'on va faire implicitement. Mais l'état de l'armée française aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce qu'on dit implicitement, en fait? Parce que le commun des mortels se dit on va envoyer des troupes, ça va partir en guerre nucléaire, mais qu'est-ce que vous entendez?
Laissez-moi terminer.
Pardon. Allons.
Laissez-moi terminer. Le sujet, c'est quelles troupes? L'armée française telle qu'elle est aujourd'hui, mais bien sûr, elle n'est pas taillée pour faire ce genre de travail. Il y a une ligne de front d'un millier de kilomètres,
pas de sens.
Avec 1 million d'Ukrainiens mobilisés et quelque chose comme 500 000 soldats russes. Aujourd'hui, en France, on a 200 chars à peu près en état de marche, quelques dizaines de canons, quelques dizaines d'avions d'attaque vraiment efficaces.
Et les Américains ne sont pas avec.
Et de quoi tenir une ligne de front pendant une semaine sur 80 kilomètres. C'est ça l'état de l'armée. C'est le résultat de 30 années de désarmement budgétaire. Je me souviens de nuits entières passées à l'Assemblée, à 1h du matin, tout seul, personne, pas de journaliste, personne, dire qu'on va vers le désarmement unilatéral de la France. C'est la même chose en Angleterre.
Donc ça veut dire qu'à partir du moment...
C'est la même chose en Allemagne. Donc ce genre de discours est totalement en décalage par rapport à la réalité. Premier problème.
Rapidement, Pierre, pardon. Mais...
Je vais être très rapide. Le deuxième problème, c'est que nous sommes une puissance nucléaire. Et que, quand on manie ce genre de concept d'ambiguïté stratégique avec ce type de rhétorique, il faut savoir qu'en face, il y a une doctrine nucléaire russe qui est assez rudimentaire et qui consiste à escalader la guerre si les choses tournent mal. Donc, il faut avoir ça présent à l'esprit.
Poutine a parlé de destruction de la civilisation dans son dernier discours.
Présent à l'esprit. Il y a eu en octobre 2022 un moment très tendu où on n'était pas loin de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques russes, de l'aveu même des responsables américains. Donc ce n'est pas des choses qu'on manie légèrement. Donc je dis, vous savez, à l'époque du général de Gaulle...
Donc on joue à se faire peur, quoi.
Non, plus que ça.
Je dis qu'à l'époque du général de Gaulle, la crainte en France, c'était d'être entraîné dans une guerre décidée par les Américains. Là, on est rentré dans un processus d'escalade, au moins verbale, jusqu'à présent, qui est assez problématique.
Oui, mais
attendez, Emmanuel Macron. Si c'est pour faire baisser le RN, c'est dramatique.
Bah oui, parce que derrière, le Kremlin réagit. Gabriel, vous prenez tout de suite la parole. J'aurais juste, donc, pour rappeler mais vous avez raison, Régis, le positionnement récent d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine fait réagir Moscou. On a entendu Vladimir Poutine lors de ce discours à 15 jours de l'élection présidentielle. Je crois que Dimitri Medvedev, la semaine dernière, un très proche, l'ancien président et très proche de Poutine, avait réagi. Il en a remis une hier soir. Regardez ça. Macron s'apprête à se rendre à Kiev, se demande-t-il. C'est un trouillard zoologique. Quoi qu'il en soit, je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons. Ça sentira très fort. PS, j'ai écrit ça ce matin. Je n'ai pas eu le temps de le publier et le soir, il s'était déjà chié dessus. Pardon, hein, c'est ce qui est écrit. Pauvre France, voilà ce que nous répond un ancien président russe
que je connais.
Que vous connaissez et qui vous a déjà parlé comme ça ?
Et qui ne parlait pas comme ça à l'époque.
Il boit, paraît-il.
Oui, bah,
mais aujourd'hui, il est devenu un des porte-parole les plus fanatiques de l'escalade nucléaire.
Enfin, faut pas.
Donc... Je voudrais que Gabriel prenne la parole.
Ses propos sont ignobles et inacceptables.
Ouais.
Mais ça donne une idée de la mentalité des gens qui sont en face.
Gabriel Cluzel, est-ce qu'on a joué à se faire peur encore une fois, avec notamment ces réponses du Kremlin qui viennent un peu nous sécher?
C'est assez paradoxal, parce que comme vous l'avez dit, l'arme nucléaire, en principe, c'est dissuasif, elle est faite pour pas être utilisée. Nous sommes d'accord. Donc le but, c'est de pas l'utiliser. Mais c'est assez paradoxal de dire en même temps Poutine est un dangereux psychopathe prêt à tout et en même temps d'agiter la muleta devant ses yeux. Quand les négociateurs le savent, quand on s'adresse à un dangereux psychopathe, on y va avec pattes de velours parce que pour pas l'exciter évidemment. Et tout ce qu'a dit Emmanuel Macron était propice à l'exciter. Quand j'écoute Zelensky, je me dis on connaissait plus royaliste que le roi, maintenant on sait qu'il y a plus ukrainien que Zelensky, c'est Emmanuel Macron. C'est quand même un peu délirant. Quant aux troupes au sol, et moi je ne suis pas d'accord avec vous, Jean-Claude, les familles ont peur, évidemment.
Ah mais non, mais
et d'ailleurs,
ça,
Fabien,
je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit simplement que c'est totalement à écarter.
Avant le 24 février 2022, on écartait tous la possibilité d'une invasion russe
et
en Ukraine.
J'ai été frappée par la déclaration de Fabien Roussel qui montre quand même qu'il y a c'est triste depuis qu'il y a plus de service militaire, il y a un décalage entre la nation et l'armée, non, parce qu'il dit il y aura les soldats, puis après il y aura nos enfants. Mais pardon, les soldats, c'est aussi
Gabriel,
les enfants de nombreux Français qui nous regardent.
Gabriel, qui est de l'inquiétude dans les familles, je partage totalement ton sentiment. C'est évident que les propos aventureux ou voulus politiquement, je n'en sais plus rien, du président de la République.
Là, c'est ça qu'on aimerait comprendre.
L'éventuelle entrée de troupes françaises aux côtés des Ukrainiens ont évidemment semé l'inquiétude.
Oui, sauf que Volodymyr Zelensky lui-même encore hier dit évidemment, les Français,
donc
je rester chez vous pour l'instant, on n'a pas besoin de vous. Merci monsieur Zelensky.
Il faut arrêter avec ce schéma guerrier qui n'a pas de sens. En réalité, c'est vrai que la dramatisation des
qui n'a pas de sens aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait demain si l'Ukraine perd la guerre, Jean-Claude Dacier?
On n'a pas les troupes. Et ben c'est l'OTAN.
Donc quoi, on parle russe dans 20 ans?
Mais alors c'est l'OTAN, mais non, mais attendez.
Non, c'est l'OTAN si les Américains veulent bien.
Voilà, c'est l'OTAN si les Américains. Et on va se battre tout seul contre la Russie. Mais c'est ridicule. Donc, qui est une dramatisation du président?
Je laisse Jean-Claude terminer, Régis.
Qui est dramatisation des propos du président qu'on peut regretter? Je suis le premier à partager ton sentiment.
Régis,
on peut même élargir cette remarque au propos de M. Attal ce soir. Pourquoi? Parce qu'il faut dramatiser au maximum la situation et la gravité de la situation pour bien mettre le nez dans ses difficultés à Marine Le Pen.
C'est ça qu'on peut regretter. J'arrive, cher Pierre. Est-ce que cette séquence ne représente-t-elle pas un moment de bascule dans ce conflit? Question posée au général Clermont tout à l'heure par Laurence Ferrari. Régis, vous rebondissez.
Nous sommes à un moment de bascule de ce conflit. Et le moment de bascule du conflit, il est lié au fait que les Américains se retirent pour l'instant du conflit momentanément et laissent un vide stratégique que les Européens doivent occuper. Et quel est le pays le mieux placé pour occuper ce vide stratégique? C'est la France, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a une puissance nucléaire de plein droit qui peut peser sur les événements. Donc c'est effectivement une bascule de ce conflit et une bascule également de la position française, puisqu'on voit bien qu'on a changé de position.
Régis.
Non, je crois que...
C'est un moment de bascule, comme le dit le général Clermont.
Un moment de bascule, alors sur la question du front, je serai un peu plus...
Vous serez le suivant.
Les possibilités que les Russes franchissent, en tout cas que le front s'effondre, ukrainien s'effondre, il y a des perspectives qui sont annoncées au printemps, peut-être à l'été, donc on n'y est pas encore, et encore une fois, c'est vrai que les Ukrainiens ont du mal à retrouver des lignes de défense, ils sont aujourd'hui en position de défense et que les Russes grignotent, mais il n'y a pas de percée véritable. Donc la question, quand on entend ces propos-là, même les propos d'Emmanuel Macron, on n'est pas dans une situation plus dramatique pour l'Ukraine qu'il y a un mois, ni même qu'elle sera dans un mois.
Elle est juste plus dramatique pour nous, la situation, en fait.
Mais parce que pour nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'en effet, si la Russie gagne, et il y a des possibilités, il y a des chances que la Russie gagne, on n'a pas l'équipement militaire. On expliquait tout à l'heure comment Pierre Lelouch disait que depuis des années, on a détricoté notre armée, on a détricoté nos industries de défense, même s'il en reste certaines. Mais on est devenu tout petit, et que là, aujourd'hui, il faut de la masse. Et de la masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire des soldats, ça veut dire des tanks, alors, ça veut dire de l'artillerie, et ça, on n'a pas. Alors, et là, on a un vrai problème, parce qu'on veut jouer dans la cour des grands en affrontant Poutine, mais on n'a pas le matériel.
C'est
ça le problème.
Jeudi, 20h, le président de la République prend la parole en simultané sur France 2 et sur TF1. Peut-on imaginer que Emmanuel Macron annonce que le pays entre en économie de guerre?
Oui, il devrait. Parce que c'est ça que je veux dire.
C'est envisageable?
Attendez.
Qu'est-ce que ça veut dire?
On peut penser ce que pense le président. Ce n'est pas du tout mon analyse. En vérité, la crainte en Europe aujourd'hui, c'est que le front s'effondre à l'été quand il y aura une grosse... Parce que tout le monde pense qu'il y aura une grosse offensive russe, que les matériels américains n'arrivent plus, qu'il y a un doute même sur le maintien des Américains dans l'OTAN après l'élection d'un Trump à la fin de l'année. Donc c'est panique à bord partout, pas seulement en France, en Norvège, en Allemagne, en Pologne et ailleurs. Donc tout le monde dit qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Donc le président, il a choisi une ligne qui consiste à dire on est en 38, ils vont attaquer, si jamais ils prennent l'Ukraine, ils vont prendre le reste. C'est pas du tout mon analyse, mais enfin, c'est la sienne.
Sérieux. Et ça va s'arrêter à l'Ukraine, vous croyez? S'ils prennent l'Ukraine,
ils vont même pas prendre toute l'Ukraine. Ils veulent la partie est.
L'Europe, c'est 500.
Mais attention, soyons clairs, Pierre, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui n'ont pas vos connaissances. Mais il y a deux ans, Vladimir Poutine veut prendre l'Ukraine. Il veut prendre Kiev au départ.
C'est un petit peu différent. Je voudrais juste prendre Kiev et attaquer un pays de l'OTAN.
Vous avez raison.
Je voudrais juste terminer.
Allez-y, Pierre.
Avec l'armée russe cabossée qu'il a aujourd'hui, qui a perdu des milliers de chars et d'équipements, il est pas en état de conquérir l'Ukraine et encore moins de l'occuper et de l'administrer pendant des années. Donc tout ça, c'est du pipeau.
Absolument.
Ce qu'il peut prendre, est conservé, c'est le Donetsk et la Crimée. Oui. Peut-être un peu plus si son offensive d'été fonctionne.
Oui.
Bon, mais ayant dit cela, attendez, je reviens quand même sur l'essentiel. Supposons que le président de la République ait raison. En tout cas, c'est sa ligne et il est le président de la République, donc c'est la politique de la France. Mmh. Mais pour que ce soit cohérent, alors, pour une fois, il faut que le mot « réarmement » ait un sens. Et pas seulement pour faire des bébés. Il faut, à ce moment-là, si c'est ça ce qui se passe, alors il faut que l'économie de guerre soit immédiatement là. Et que
rappelez-nous,
lance...
ça veut dire quoi entrer en économie de guerre?
Ah ben, ça veut dire
concrètement,
que...
en quelques mots, pour les Français qui
ça veut dire que toutes les usines qui produisent, je sais pas moi, des landaus ou des machines à laver, s'il en reste encore, ou des automobiles, se mettent à faire des chars et des morceaux d'avions. Et des missiles. Ça veut dire que le budget de défense, qui est à 2% à peine, va monter à 5, 6, 7, 8% comme il était au début de la guerre froide.
D'accord.
C'est ça l'histoire. C'est que tout d'un coup, il faut que le pays bascule dans quelque chose qui est la
production de masse. Ça tombe mal. Dans la situation financière qui est la nôtre, ça tombe mal.
Non mais...
Bah, quand les Allemands ont occupé la France...
Concluez, Pierre, s'il vous plaît.
Je conclue. Il y a des façons de faire. On peut faire un grand emprunt de guerre... On peut faire un grand emprunt aussi au niveau européen, mais là, les Allemands le refusent. Mais si on veut avoir quelque chose de cohérent par rapport au discours, alors jeudi soir, il doit annoncer la conscription à nouveau, parce qu'il faut des hommes.
Ah
bah et il faut des matériels.
Ah bah Pierre, je crois que ce que l'on peut dire...
C'est pas que les Français ont envie de mourir pour l'Ukraine.
Non, c'est pas une histoire de vie, c'est pas de mourir pour l'Ukraine. C'est d'être prêt à la menace qu'il décrit. C'est
Pierre, si tu permets, jeudi soir, je pense qu'il annoncera le développement d'un centre de production européen d'un armement européen.
Ça n'existe pas.
Mais ça n'existe pas, c'est ce qu'il va annoncer pour que ça existe. Ça aura davantage de sens, ça sera long, mais ça aura davantage de sens que de remettre la France dans une économie de guerre, mon Dieu, avec quels moyens ?
Qu'attendre de jeudi soir et du chef de l'État, Gabriel, un dernier mot.
On peut surtout ne pas exclure que tout cela ne soit qu'une vaste pièce de théâtre, tout simplement.
Oui, on revient à notre propos initial, juste mettre le RN face à ses responsabilités.
Et puis pour un effet drapeau, vous savez, quand il y a une guerre, eh bien, on se rassemble autour du président. On repart en 40. Et
c'est terrible de faire ça.
Ce qui m'a semblé intéressant dans le propos de Marine Le Pen, c'est qu'elle a dit, au moment où il a parlé des troupes au sol, il a forcé les autres pays européens à se positionner, à dire nous, on n'en verra personne. Et de ce fait, loin d'inquiéter Vladimir Poutine, il l'a indirectement rassuré. Donc, si c'est une pièce de théâtre, elle est vraiment dramatique et détestable.
Et ce qu'a fait Marine Le Pen cet après-midi, c'était quoi ? Soutien à l'Ukraine absolument, mais en surfant sur les peurs des Français, les inquiétudes.
Rendez-vous.
On ne sait pas avec quels moyens le Rassemblement national pourrait aider l'Ukraine en question. C'est pour ça que la pièce de théâtre est pas totalement à exclure.
Réponse jeudi soir, donc, avec cette attendue interview du président de la République à 20h qu'on débriefera, bien sûr, sur Soir Info. Dans Soir Info, 23h quasiment, à quelques secondes près, Maureen Vidal, l'essentiel. Et on se retrouve pour un tout autre sujet, ces étudiants juifs insultés par des militants d'extrême-gauche tout à l'heure dans l'enceinte de Sciences Po.
Le corps d'une fillette de 4 ans a été retrouvé dans le Gard, emporté par une rivière en crue. Le bilan monte à 6 morts avec les intempéries survenues ces derniers jours. Le frère de la fillette âgée de 13 ans est lui toujours porté disparu. Les deux enfants et leur père avaient été emportés alors qu'ils se trouvaient en voiture samedi soir en Ardèche. Également, un homme n'a pas encore été retrouvé. 13 membres présumés du gang des Z-Mafia interpellés à Marseille, l'un des principaux gangs impliqués dans le trafic de drogue à l'origine d'une cinquantaine d'homicides dans la cité phocéenne. Gérald Darmanin a félicité les forces de l'ordre dans un X. Ce coup de filet intervient quelques jours après l'interpellation du chef du clan Yoda, principal rival de la Z-Mafia. Enfin, un bateau d'aide alimentaire direction Gaza a quitté Chypre ce matin. À bord, 200 tonnes de vivres, riz, farine, conserves qui doivent être distribuées aux Gazaouis. Chypre est le pays de l'Union européenne le plus proche de l'enclave palestinienne située à quelques 370 km. Il s'agit du premier bateau d'aide alimentaire acheminé vers Gaza.
On est toujours avec, merci beaucoup Maureen, rendez-vous dans 30 minutes, on est toujours avec Gabriel Cluzel, Pierre Lelouch, Jean-Claude Dacier, Régis Le Sommier. Ce matin, des étudiants pro-palestiniens se sont introduits dans l'amphithéâtre Boutmi de l'université Sciences Po Paris. Ils l'ont renommé, comme vous le voyez, l'amphithéâtre Gaza. Ils ont empêché une étudiante membre de l'UEJF, l'UEJF c'est l'Union des étudiants juifs de France, d'y entrer en l'insultant de sioniste. Non, tu es une sioniste, tu ne rentres pas. La ministre de l'enseignement supérieur s'est rendue dans l'université cet après-midi. L'UEJF de son côté appelle à des sanctions exemplaires. Récapitulatif de ce qui s'est passé avec Alice Sommerer.
Des chants en hommage aux victimes palestiniennes. À Sciences Po Paris, les étudiants ont occupé l'amphithéâtre Boutmi et l'ont rebaptisé amphithéâtre Gaza. Ils ont ensuite interdit à une étudiante d'y entrer en criant « Ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste ». Des propos honteux selon Sarah Ouaklil, vice-présidente de l'UEJF.
Donc on attend une condamnation évidemment ferme et entière de la part de tout corps, que ce soit ministériel ou de la direction de Sciences Po. Ils ont commencé à réagir à travers des tweets, mais sans jamais mentionner le mot d'antisémitisme.
Devant l'université, plusieurs membres de l'UEJF ont réclamé à ce qu'un hommage soit rendu à toutes les victimes. La ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a déclaré regretter cette situation et s'est ensuite rendue sur place.
Nos établissements sont des lieux d'études et de débat. Le droit doit y être strictement respecté. Il est intolérable et choquant d'y subir la moindre discrimination, la moindre incitation à la haine. Je viens de me rendre à Sciences Po pour faire un point avec la direction. Notre fermeté ne faiblira pas.
De son côté, Éric Ciotti a manifesté son soutien aux étudiants de confession juive en rappelant que ces discriminations ne doivent en aucun cas être acceptées.
Gabriel Cluzel, un commentaire. Combien de temps est-ce qu'on va tolérer ça? Combien de parents, depuis le 7 octobre, ont sorti leurs enfants d'un lycée ou de l'université parce qu'ils sont intimidés parce que juifs au quotidien?
Oui, bien sûr, il y en a beaucoup qui témoignent que leurs enfants ne peuvent plus aller suivre leurs études normalement. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est la surprise ou la fausse surprise de certains. Parce qu'en réalité, nous savons bien que pour ceux qui s'y intéressent, l'extrême gauche gangrène tout l'enseignement supérieur. Alors, moins l'enseignement scientifique, mais de l'ENS à Sciences Po, même j'ai fait la Dauphine, toutes les universités de lettres, depuis bien longtemps. Et là, nous en avons une expression particulièrement terrible après ce 7 octobre. Mais pour ceux qui connaissent vraiment le milieu, il n'y a rien d'étonnant. D'ailleurs, je trouve la réponse de Madame Retailleau assez molle, si j'ose dire. Je vous rappelle qu'en 2019, c'est à Sciences Po, je crois, Alain Finkielkraut oui, a été interdit d'intervention. Il n'a pas pu faire sa conférence.
Non, mais c'est pas une première.
Et que s'est-il passé? Rien du tout. En fait, à l'ENS, il y a des interventions régulières de Madame Butler, dont on connaît aujourd'hui les options. Ça ne dérange absolument personne. Et là encore, le ministre de l'enseignement supérieur était à chaque fois d'une discrétion de violette. Donc tout d'un coup, on pousse des cris, des O, des A. Non, ça n'a rien d'étonnant. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur est majoritairement aux mains de l'extrême gauche.
C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois que ça arrive à Sciences Po Paris. Je pourrais vous rappeler également ce qui s'est passé à Sciences Po Menton. Des tracts pro-palestiniens avaient fait polémique le 10 octobre dernier, en assimilant le Hamas à des résistants palestiniens de Gaza. Je voudrais juste que vous voyiez, Pierre, avant que vous réagissiez, le communiqué de Sciences Po, parce que ça m'a presque, j'ai pas plus, mais autant choqué que les faits survenus aujourd'hui. Sciences Po déplore une action et les pratiques utilisées qui s'inscrivent délibérément hors du cadre fixé en matière d'engagement et de vie associative. L'administration se réserve le droit de saisir dès à présent la section disciplinaire à l'encontre de certains étudiants. Il n'y a pas un mot qui manque là dans ce communiqué.
Légèrement, oui.
Il n'y a pas un mot qui manque dans ce communiqué. Le mot antisémitisme, peut-être, qui n'est pas relevé, alors que c'est l'antisémitisme crasse. On est dans un déni de réalité permanent.
J'ai la même maladie qu'à Harvard. Moi, j'ai été étudiant dans les deux. Et je me souviens de cet amphithéâtre Boutmi, bien sûr.
L'amphithéâtre principal de Sciences Po.
Bien sûr. C'est catastrophique de voir à quel point les dirigeants d'université se couchent littéralement devant ce qui se passe.
Mais ils participent d'une certaine façon.
Quand j'étais étudiant, j'étais juste après 68, c'était droite-gauche violent. Il y avait des affrontements droite-gauche. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, vous avez une pénétration de l'extrême-gauche par les mouvements dits néocoloniaux et qui se battent au nom de l'antiracisme, mais qui font en fait du racisme à l'état brut. C'est-à-dire que l'extrême-gauche aujourd'hui vend du racisme et de l'antisémitisme. Et c'est absolument dramatique de voir ça, à quel point le combat politique a totalement dévié. Et je termine sur une réflexion. Dans les deux discussions qu'on vient d'avoir, l'une sur l'Ukraine et l'autre sur Gaza, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, d'un côté, le gouvernement essaye d'importer l'Ukraine dans le débat politique en France, alors que s'agissant de Gaza, on essaye au contraire d'exporter et de dire que ça ne nous concerne pas. Mais ça nous concerne. Et les autorités françaises feraient bien de considérer qu'il y a un problème majeur d'antisémitisme et probablement durable à cause de cette affaire.
Le patron de LR a réagi, Eric Ciotti. Une limite intolérable a été franchie à Sciences Po, où l'antisémitisme de l'extrême gauche est assumé en toute impunité. Tout mon soutien aux étudiants de l'UEJF face à ces comportements ignobles. Ces individus doivent être sévèrement sanctionnés. Il y a ces insultes, il y a ces affrontements physiques qui ont eu lieu. Il y a, je le rappelle, cette étudiante Régis non admise dans l'amphithéâtre en raison de son judaïsme. Oui. Ça ne s'est pas passé sous Vichy, hein. Ça s'est passé dans la France de 2024. Peut-être qu'on pourrait dire à M. Attal, plutôt que de nous asséner le retour des heures sombres, peut-être se préoccuper dans un premier temps de ce qui se passe à Sciences Po Paris.
Ils sont là, et puis surtout quand on le voit, cette photo qui est derrière nous, là, on ne voit pas un cours. On voit des militants qui sont en train de tenir une AG avec des drapeaux palestiniens et tout à coup, il y a sur le côté, vous voyez, Sciences Po, 150 ans. Moi aussi, j'ai été étudiant à Sciences Po et je me souviens qu'à l'époque, il y avait en effet beaucoup d'affrontements. Il y avait des jeunes qui étaient très politisés, mais on avait un prof d'histoire, nous, qui nous avait fait refaire le procès Pétain. Et on était chacun, il y avait des gens qui étaient très à gauche, il leur avait demandé de faire la défense de Pétain. Pour se mettre dans la peau, pour expliquer, pour essayer de comprendre.
Pas sûr qu'on revoie un tel exercice aujourd'hui.
Tout le monde se pliait à la règle, c'était dicté par le prof. Là, c'est pas un prof qui mène les débats, c'est des gens qui sont complètement militants.
Ce sont des gens qui veulent réduire les juifs au silence.
Bien sûr.
Alors, tout simplement. Parce que tu es sioniste, interdit aux juifs.
Voilà. Donc
c'est Vichy.
Mais au nom de l'antiracisme.
C'est le paradoxe insupportable. Jean-Claude Dacier qui n'a pas réagi.
C'est une préoccupation qui dépasse largement Sciences Po. Il y a maintenant des affrontements d'une grande violence dans la plupart de nos pays occidentaux. Il y a une porosité évidente en France entre l'extrême gauche que portent beaucoup de mouvements pro-palestiniens. Mais c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai aussi en Angleterre. Et ce qui me frappe, mon cher Pierre, c'est la dégradation profonde, importante, très large, de l'image et de la politique israélienne dans la plupart des pays occidentaux. C'est une préoccupation que l'on doit, quand on est responsable et raisonnable, prendre en compte et essayer de voir que même l'Amérique de Biden n'arrive pas à bloquer les bombardements israéliens sur Gaza, n'arrive pas à établir encore un nouveau cessez-le-feu pour essayer de récupérer quelques otages, mon Dieu, s'il en reste en vie, et n'arrête pas non plus d'essayer de ramener une esquisse de dialogue, si c'est encore possible, pour essayer de rétablir une situation.
Gabriel,
il y a un problème avec ses étudiants.
Mais bien sûr.
Parce que c'est
bien sûr,
Biden et qu'ils ne vont pas voter pour lui aujourd'hui. C'est un vrai problème.
Gabriel, Jean-Claude évoquait l'Angleterre. J'entendais notre ami sociologue, qui est souvent chez Laurence Ferrari notamment, qui l'était tout à l'heure en tout cas, Sabrina Medjeber, rappeler, et ça je l'ignorais, qu'à Londres, désormais, vous trouvez des no-Jew zones. Des endroits interdits aux Juifs.
Ça devient dramatique.
Que font nos dirigeants? Ça se banalise dans les écoles les plus élitistes. Sciences Po Paris, qui forment les élites de demain. La manif du 8 mars pour le droit des femmes, où on a entendu ces pro-palestiniennes insulter. Je ne vais pas rappeler l'insulte contre une jeune femme juive. Le pogrom qui est tue pendant les Césars, la cérémonie des Césars, quasiment seulement consacrée donc à ce qui se passe dans Gaza, qui est tragique. Mais on ne peut pas nier l'un sans évoquer l'autre, évoquer l'un sans nier, vous m'avez compris. On est à plus de 1000% d'augmentation d'actes antisémites. L'antisémitisme est quasiment global et s'installe dans la société.
Non mais je vous laisse imaginer simplement la scène d'aujourd'hui, une jeune étudiante juive qui ne peut pas rentrer dans cet amphithéâtre, simplement 10 ans auparavant. 10 ans auparavant, ça aurait été une déflagration. Mais là, il y a une complaisance avec cet antisémitisme, c'est évident. Regardez le minimum syndical dans le message, c'est vraiment le minimum, hein, tant de Sciences Po que de la ministre de l'enseignement supérieur. Et donc
c'est normalisé.
Aujourd'hui, cet antisémitisme, parce qu'il vient de populations qui sont soutenues par l'extrême gauche, qui sont réputées être opprimées, donc qui ont tous les droits,
ils sont en réalité, du bien.
Il est admis, cet antisémitisme est admis. Il faut quand même s'en rendre compte. Moi, je suis terrifiée par le peu de réactions. Est-ce que c'est les étudiants qui ont organisé, ils ne sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit, ces militants pro-palestiniens? Quelqu'un leur a ouvert, il y a des cartes d'étudiants qui ont dû circuler, à minima, et visiblement, il y avait des étudiants qui étaient tout à fait favorables. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Pas du tout.
Il y a une soixantaine d'étudiants qui, dans un premier temps, ont bloqué l'amphithéâtre. Les drapeaux palestiniens ont été arborés dans la salle. Et ensuite, il y a un mouvement qui s'est suivi.
Vous vous souvenez ce qui s'est passé à Bordeaux? Ils avaient dévasté l'université de Bordeaux. Il ne s'est rien passé. Donc, je doute fort que ceci soit sanctionné. Cet antisémitisme est tout à fait toléré. Donc, il faut arrêter de nous dire que dans notre pays, on lutte contre l'antisémitisme. C'est faux.
Je voudrais juste que vous entendiez Rachel Kahn, qui est particulièrement active dans cette façon de dénoncer l'antisémitisme depuis notamment le 7 octobre, qui était là encore chez Laurence. Écoutez ce qu'elle en dit, parce que je voudrais que vous réagissiez.
Ça fait plusieurs années, bien avant le 7 octobre, que l'ensemble de cette situation a été préparée pour qu'on n'arrive plus à se défendre. Nous avons été idéologiquement désarmés. Maintenant, on entre dans ce judaïsme clandestin où le sionisme est le botox de l'antisémitisme profond et où cette jeune femme qui n'a pas pu rentrer à la fac, je pense que ça doit être une jeune femme qui doit avoir 20 ans, donc elle a grandi avec Ilan Halimi, elle a grandi avec Toulouse, elle a grandi avec l'hypercachère, jusqu'à aujourd'hui, ne pas pouvoir rentrer dans cette université, c'est absolument honteux.
Le sionisme et le botox de l'antisémitisme, et nous sommes désarmés idéologiquement. Que dire de plus ?
Dire un mot à Jean-Claude, je vais venir à ce qu'il a dit tout à l'heure. Madame Kahn a raison de rappeler que c'est un phénomène ancien. Moi, j'ai fait voter une loi qui double les peines en cas d'attaque raciste et antisémite. C'était en 2003, il y a 21 ans. Et depuis, on a eu Halimi et on a eu les pauvres femmes défenestrées. Enfin, c'est chose épouvantable.
Ça s'est aggravé quand même, là. Considérablement.
D'accord. Mais malheureusement, la maladie, elle est là et elle est liée au changement de population à l'intérieur du pays.
Ça s'est débridé le 7 octobre.
Oui, mais il y a un changement de population, il a raison, bien sûr.
Il y a un antisémitisme qui était d'extrême droite dans le temps, qui est devenu très proche des mouvances musulmanes islamistes. C'est quand même ça, la réalité. Gaza ajoute une touche
supplémentaire.
Je voudrais juste dire un mot sur Gaza. J'ai dit depuis le début à quel point je trouvais que la politique de Netanyahou n'était pas la bonne pour gérer cette horreur du 7 octobre.
Bien sûr.
Mais j'ai quand même un mot. Si demain il y a un cessez-le-feu, comme le demande tout le monde, y compris la France, les États-Unis, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les types qui sont cachés dans les tunnels, les gens du Hamas, garderont le pouvoir à Gaza. Les tueurs garderont le pouvoir. Et on ne
le principal problème des Gazaouis, c'est le Hamas. Et ça, certains ont du mal à comprendre.
Une équipe de tueurs qui utilise sa population comme otage dans une situation de chantage où on échange des otages et on joue avec le temps pour augmenter la pression sur Israël, qui est maintenant dénoncé comme l'État bourreau devant la Cour internationale.
Jean-Claude, s'il vous plaît, juste voyez avec moi le tweet d'Aurore Berger, là encore, pour qu'on puisse rebondir. La ministre qui dit ce qui s'est passé à un nom, l'antisémitisme, demander le nom des gens, les filtrer à l'entrée, assimiler leur nom à la politique du gouvernement israélien, c'est insupportable et illégal. Rien ne le justifiera jamais, soutien à l'UEJF. Je voudrais juste que vous lisiez avec moi et vous reprenez le communiqué de l'UNI, une autre association étudiante. C'est Quentin Coton qui s'exprime, responsable du syndicat uni à Sciences Po. Des associations d'extrême gauche ont occupé l'amphithéâtre historique. Cela viserait à organiser des temps de débat, dont un sur le thème judaïsme et antisionisme, ainsi que de demander à l'administration de prendre des positions contre les actions d'Israël dans le conflit en cours au Moyen-Orient. Nous demandons à l'administration de réagir avec fermeté face aux organisateurs de ce trouble. Oui, Gabriel.
Et Général Darmanin, il va faire quoi? Parce que lui qui est si prompt à dissoudre les associations d'extrême
droite. On va faire des discours. On va faire des discours.
Ça dépasse les compétences de M. Darmanin et même sa responsabilité.
On
nous dit qu'il faut aller défendre l'Ukraine
et on va conclure.
Défendre nos valeurs, mais on n'est pas capable de défendre nos valeurs chez nous. C'est quand même assez effrayant. Dans la même. C'est M. Attal cet après-midi à la tribune de l'Assemblée nationale qui nous explique qu'il faut aller très loin et que nos valeurs sont en péril si Vladimir Poutine gagne. Mais Vladimir Poutine n'a pas gagné, mais là, nos valeurs sont clairement en péril, c'est tout.
Il n'y avait pas un antisémitisme de cette ampleur-là dans les années 30 en France.
Non, certainement pas.
Et Dieu sait qu'il y avait l'action française.
Mais bien sûr, il y avait des...
Il n'y avait pas cet antisémitisme.
Pierre, moi je me souviens de 1967, la première guerre qui a vraiment posé l'existence d'Israël. Le soutien en France était total.
Total, bien sûr.
Total. Je me souviendrai toute ma vie des commentaires de Roland Garros à l'époque de Claude Darget qui disait à Darmon qui était en train de se faire battre dans un match de tennis, ce n'est pas grave mon petit Pierre, l'essentiel c'est de gagner en Israël. Le soutien du peuple français était total. Regardez aujourd'hui. C'est là le problème et c'est à cela qu'il faut réfléchir.
En tout cas, cet incident est...
Je pense que notre ami...
Jean-Claude
Pardon.
Régis. Ah, pardon.
Pardon, Régis. Notre ami Régis, j'essayais de penser à ce que...
Régis.
Je pense que ce qu'a dit Régis tout à l'heure sur le paradoxe entre parler de 1938 et la situation intérieure du pays, c'est le bon. Dans les années 30, encore une fois, il y avait de l'antisémitisme en France, c'était pas du tout le même. Et il était sans commune mesure.
Oui.
Avec les violences que l'on connaît aujourd'hui.
Il s'est normalisé, débridé depuis le 7 octobre, pas le 8. Hein. Et c'est ça qui est important également et qu'il faut rappeler à chaque fois, peut-être pour conclure avant de passer à un autre sujet, c'est que tous ceux qui font preuve d'antisémitisme ou d'antisionisme en visant le gouvernement Netanyahou et la conduite d'Israël à Gaza doivent se rappeler que les actes antisémites ont commencé le 7 octobre alors qu'Israël n'avait pas répliqué, n'avait pas envoyé le moindre missile sur Gaza à ce moment-là.
Non, mais enfin, il y a quand même un principe de précaution qui est
depuis 10 ans. Je rappelle qu'Israël a quitté l'État d'Israël a quitté Gaza depuis 10 ans.
Non, mais qui est le cheval de Troie de cet antisémitisme? Ça a été une immigration massive en provenance de pays où règne culturellement un antisémitisme.
Alimenté par une extrême gauche qui surfe sur un électorat.
Bien sûr, mais il n'empêche que continuer à importer massivement cette immigration en provenance de ces pays-là, c'est tout à fait contrevenu au principe de précaution,
Gabriel,
élémentaire.
À Sciences Po, j'ai pas fait le profil des étudiants. Mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de migrants dans l'enceinte de l'amphithéâtre aujourd'hui.
Vous pouvez
compter
sur moi pour dénoncer l'ultra-gauche également, mais c'est l'hybridation entre l'ultra-gauche et cette population qu'ils appellent de leur vœu du rêve.
23h18, tout autre sujet. On a fait un pas de plus aujourd'hui vers l'autonomie de l'île de beauté, la Corse. Gérald Darmanin a annoncé la nuit dernière un accord entre le gouvernement et les élus corses pour un projet de réécriture constitutionnelle en faveur d'une reconnaissance d'un statut d'autonomie tout en gardant l'île au sein de la République, a voulu préciser le ministère. Les explications de Mathieu Devez.
Après 5 heures de discussion, le gouvernement et les élus corses ont trouvé un accord. Ils portent sur un projet d'écriture constitutionnelle pour reconnaître l'autonomie de l'île au sein de la République.
La Corse pourra définir un certain nombre de normes encadrées par la loi organique et ce pouvoir d'adaptation, ce pouvoir normatif, il ne crée cependant pas la séparation de la Corse avec la République, puisqu'on n'évoque ni le peuple, ni le statut de résident, ni la confidentialité de la langue.
L'idée d'un pouvoir normatif satisfait les autonomistes, mais devra être validée par l'Assemblée territoriale corse.
Le principe d'un pouvoir de nature législative soumis à un contrôle du Conseil constitutionnel est aujourd'hui clairement acté. Le pas décisif qu'il fallait franchir ce soir est franchi, donc c'est une avancée très importante.
Mais certains responsables politiques laissent planer le doute sur leur soutien au texte.
Je suis fondamentalement opposé, farouchement opposé au pouvoir législatif. Je pense que la loi doit rester au Parlement, que c'est le Parlement qui fait la loi. Ça ne peut pas être la collectivité de Corse qui va faire la loi.
Invité il y a 2 semaines de la grande interview CNews Europe 1, Manuel Valls accuse même le gouvernement de mettre en cause l'unité de la nation.
Le pouvoir, l'exécutif, le président, le gouvernement ouvrent là une brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer des régions ou des communautés, des formes de communautés dans notre pays. On est en train de défaire le pays, la France, ça n'est pas une addition de tribus. Donc je m'opposerai de toutes mes forces à cette idée qui me paraît très dangereuse pour notre pays. Là, on joue avec ce qu'est le pays et l'essentiel de notre identité.
Après consultation de l'Assemblée de Corse, le texte devra être voté par les 2 chambres du Parlement, puis adopté par le Congrès.
Je reprends les mots de Manuel Valls. On ouvre une brèche dangereuse.
Il s'y connaît, Manuel Valls, avec la Catalogne.
Hein, il a demandé l'indépendance de la Catalogne.
Non, il était dans le mouvement anti-indépendance.
Oui, mais il était candidat là-bas, donc il
connaît. Oui, mais c'est pas exactement la même question. Est-ce que, tiens, petit tour de table, est-ce que philosophiquement, Jean-Claude Dacier, pour commencer, est-ce que vous êtes pour l'autonomie de la Corse?
Moi, je suis idiot. Je pensais que la Corse était déjà largement autonome. On fait à peu près, on fait souvent à peu près ce que l'on veut dans beaucoup de domaines, pas dans tous. Il semble quand même que sur deux demandes essentielles des autonomistes, enfin des responsables corses dans la négo, la Corse comme langage officiel. Si vous parlez pas corse, déjà vous êtes à part. C'est refusé. Le statut de résident, si vous n'êtes pas résident corse, seulement là pour les vacances, refusez aussi. Si c'est ça, je veux bien examiner la suite, très éventuellement. Mais quand même, je partage moi les inquiétudes de Manuel Valls, sans aller jusqu'à l'outrance, un peu peut-être comme lui. Mais quand même, si j'étais un intellectuel basque, un intellectuel breton, je commencerais à travailler sur le cahier de revendication. Il faut faire attention, parce que je vais vous dire, et je termine, si ça se passe bien, bon, il y aura peut-être quelques mouvements ici ou là, mais ça sera probablement maîtrisable. Si ça se passe mal, la Corse va connaître de nouveau des mois, voire des années de difficultés et de violence.
Parce que ce vers quoi on se dirige, c'est tous les avantages sans les inconvénients, en fait.
On va voir. Je sais le pas. Beurre, l'argent je du connais beurre, pas le détail encore des choses.
Ça, c'est mal si c'est pas voté.
Si c'est pas voté, la Corse va encore connaître des mois difficiles.
Alors, Régis et Gabriel qui veulent réagir, allez-y.
Moi, je voulais réagir.
Tout le monde, allons-y, on y va.
D'abord,
on est dans le temps.
Il y a un constat il y a une réalité des îles méditerranéennes qui sont absolument toutes autonomes, à l'exception de la Corse. C'est-à-dire qu'elles ont toutes des statuts d'autonomie et ça n'a pas provoqué le départ de la Sardaigne, de l'Italie ou de la Sicile, etc.
L'histoire de l'Italie et l'histoire de France.
Pas pareil, je parle d'île, je parle de géographie.
D'accord, mais l'Italie depuis toujours, c'est une congrégation une confédération.
Et nous, on va vers cette archipélisation.
Non, mais moi, je suis pas
la même histoire.
Je suis pas contre le fait de.
Nous avons eu Louis XI qui a rassemblé la France au XVe siècle.
On a aussi étouffé sous le jacobinisme et c'est.
Non, mais d'accord, mais on n'est pas là.
Par Paris, on n'est pas la solution ni la panacée ni l'expression.
Mais enfin, mais en termes de décentralisation, d'arrangements locaux sous Sarkozy, tout a été voté déjà. C'est pas le sujet.
Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir de plus?
Non, mais moi, je pense qu'il faut voir ça avec plus de hauteur et voir en quoi ça en dit long sur l'état de la France. C'est-à-dire que plus l'identité française est affaiblie, plus l'État français est affaibli, pour ne pas dire failli dans certains registres, plus l'identité corse et les velléités corses d'être autonomes sont fortes. Parce que c'est toujours la plus petite identité commune, finalement, autour de laquelle on se rassemble. Et nous allons vers la même chose pour d'autres, vous l'avez dit, d'autres identités. Basque, bretonne, occitane, alsacienne, j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est en cela que c'est un peu triste et un peu dangereux. C'est un peu la France qui se délite, vous voyez.
Il y a un contexte corse. On va parler de la Bretagne, pourquoi pas du Pays Basque, de l'Alsace.
Non, mais la Corse insulaire, voilà.
On peut comprendre d'ailleurs ce que Manuel Valls dit, mais la Constitution prévoit d'adapter, je regarde Pierre Lelouch, prévoit d'adapter les lois en fonction d'un contexte donné. C'est le cas à Mayotte, notamment. Pourquoi pas en Corse? Pourquoi pas en Corse?
Non, c'est même pas à Mayotte. Les gens de Mayotte, ils ne rêvent qu'une chose, c'est d'avoir le droit commun avec la France. Non, c'est plus comparable. Les Corses se réfèrent plus à la Calédonie et à la Polynésie, ça se passe mal d'ailleurs, et où le maintien dans la République est à terme problématique. Non, ce qui se passe en Corse, c'est, je pense...
Vous, est-ce que vous êtes pour philosophiquement?
Moi, je pense que c'est Manuel Valls qui a raison, je pense qu'on est en train d'ouvrir une brèche dans l'unité de la nation qui est très très compliquée. Dans une île où aujourd'hui les partis traditionnels français ont disparu, et où il ne subsiste que des autonomistes et des nationalistes, parce que c'est tout ce qui reste en Corse. Après, la vraie question de fond, c'est la suivante. Est-ce que les Corses veulent rester dans la République française? C'est ça. Parce que si on pense que l'autonomie va arrêter la nation...
Ça s'est déjà fait. Ils ont refusé l'indépendance.
Ça s'est pas fait. Mais tout le problème est là. C'est que Sarkozy n'a pas fait ce référendum-là.
Oui, mais avant,
Le référendum sur les institutions locales.
Oui.
La vraie question, c'est est-ce que l'île reste avec nous ou pas?
Mais oui, mais ça c'est prévu.
Je crois qu'il n'y a pas de majorité
au sein de la République.
Je crois qu'il y a Marine Le Pen la dernière fois.
Non, c'est pas prévu.
Il n'y a
pas
de majorité. Ministre de l'Intérieur hier, en tout cas.
C'est pas prévu.
Après, ça va être dit qu'il va y avoir des discussions.
Il est dit que ça va rester dans la République, mais avec un statut hors norme par rapport aux autres
régions. Voilà, mais il n'y a pas de majorité corse pour l'indépendance. Ils sont pas fous.
Regardez ce que disait aujourd'hui le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Corse, il fallait s'y attendre. Hier, le président du Sénat, Gérard Larcher, a reçu une lettre du président de la région Bretagne pour demander à son tour la modification de la Constitution, hashtag boîte de Pandore. D'ailleurs, regardez la lettre qu'a reçue le président du Sénat de la part du président de la région Bretagne. Dans cet esprit, je me permets de vous faire part d'une proposition ambitieuse, néanmoins susceptible de faire consensus parce qu'universelle. Elle n'est pas une proposition bretonne pour la Bretagne, c'est une proposition républicaine pour tous les territoires de la République marquée par une force spécifique. Par une forte spécificité, il s'agit donc d'un chemin qui permettrait de reconnaître la diversité des territoires.
Comprenez pourquoi j'ai mentionné
dans un cadre
commun
actualisé.
Mais moi, je suis pour.
Dans son unicité. Écoutez juste. Écoutez le président de la région Bretagne aujourd'hui. Le président de la région Bretagne.
On a tout détricoté.
La Bretagne, de par son identité, sa culture, sa manière de vivre, ses langues, a une situation déjà en soi particulière. Nous avons un trait de côte qui évolue avec le réchauffement climatique, qui nécessite des adaptations de certains textes. La République, elle est diverse. La République, elle est multiple. Mais la République, elle doit prendre en compte, encore une fois, ses singularités en donnant de l'énergie, de la force au territoire. C'est plus puissant que d'attendre aux 20h quelqu'un qui vient nous annoncer une solution qui finalement ne s'appliquera pas. Ou ne s'appliquera pas partout en France. Plutôt que l'homme providentiel, plutôt que le nationalisme, donnons la confiance au territoire, aux élus locaux qui font la France et qui peuvent répondre de manière courte et rapide à nos concitoyens.
La boîte de Pandore, Gabriel.
Absolument.
C'est farfelu.
Non, parce qu'on nous y arriverons peut-être. Ce qui me frappe, c'est que il faut jamais dire jamais. Il revendique.
L'autonomie n'est pas indépendance.
Il revendique une identité, encore une fois, une identité culturelle, une langue éventuellement, une communauté et un destin commun que l'on refuse aujourd'hui à la France. Ça paraît très sexy et rock'n'roll quand c'est pour une région, pour la Bretagne, la Corse, etc. Mais en revanche, quand c'est la France, il n'y a plus d'identité. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive vers cela. Alors, ce qui est curieux, c'est que la France va être concernée par un État fédéral à la fois pour elle, peut-être un jour, et elle-même peut aller en Europe, être elle-même une des au sein de l'État fédéral Europe.
Il y a la Grèce et la France. Hein. Les deux États sont
fédéralistes. C'est la panacée du fédéralisme.
Mais l'Angleterre,
est-ce que si les autres le font, est-ce que ça veut dire que c'est la meilleure solution?
Le Pays de Galles, il a quoi comme statut, le Pays de Galles?
Mais c'est, l'Angleterre n'est pas un État fédéral, voyons.
Ah bon? Et l'Écosse,
autonomie tout de même.
Et la Cornouaille.
Tu parles breton, toi?
Ça ne fonctionne pas comme une fédération.
Ah, oui, il y a un royaume. Et notre ami parle breton.
Kenavo, ça veut dire au revoir.
Je vous le dirai. Je l'aurai dit dans un quart d'heure.
Moi, je ne veux pas le trahir. Mais
Mandaramat, ça veut dire comment allez-vous?
Il
y a un néologiste qui dit démat, mais démat, ça veut dire jour.
Vous êtes breton,
en fait, on dit.
Oui, il parle breton.
Mais au breton,
moi, je ne veux pas trahir mon ancien président Patrick Lé, qui était à
TF1. Il parlait breton aussi. Vous avez parlé breton avec lui.
Il bretonnait, mais il était pas loin d'être partisan.
Bon. Je vais voir si je vous trouve
la Bretagne.
Si je vous trouve un Queen Yaman le temps du de Maureen Vidal.
On peut éclaircir un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément anti-national, on n'est pas forcément anti-français quand on réclame le respect d'une identité régionale. Voilà,
une identité régionale
avec une langue qui longtemps a été méprisée, qui longtemps a été écrasée. Et le jacobinisme a fait des ravages
La Corse veut rester la France il y a une cinquantaine d'années.
L'Alsace, c'est pareil.
Exactement.
Je crois qu'il faut une nouvelle phase de régionalisation, de déconcentration, appelons-le comme nous le souhaitons. Le président de la République a chargé Éric Woerth de commencer à réfléchir à ce problème. Il y a beaucoup de gens qui considèrent en région que recevoir en permanence des ordres de Paris quand ils sont pas contradictoires, c'est déjà une bénédiction.
Les gens de Lyon, les gens de Marseille.
Voilà, bon, faut réfléchir à ça quand même.
Ça vous a juste en accord, ça.
Mais c'est évident. De se voir dicter ce qu'il doit faire par Paris.
Jean-Claude ?
Non, pas du tout. Mais essayez, si vous êtes non-Corse, essayez d'aller acheter une maison en Corse ou de construire en Corse.
C'est compliqué.
On en reparle. Hein.
Bah oui, mais ils protègent leur île.
Eh oui.
Et certains diront qu'ils ont bien raison. Mais
en tout cas, ça fait les émules en Bretagne.
Allez, 23h30, Maureen Vidal, on se retrouve juste après pour, vous le voyez en bas de l'écran, revenir sur cette fusillade insupportable hier à Rennes, avec des habitants qui restent totalement traumatisés. À tout de suite.
La lettre était prête.
L'Assemblée nationale apporte un large soutien à l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, malgré l'abstention du Rassemblement national et l'opposition de la France insoumise et des communistes. Après de longs débats, 372 députés ont voté pour et 99 contre, a annoncé la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Sciences Po Paris, théâtre d'un blocus aujourd'hui par des étudiants pro-palestiniens. Un amphithéâtre a été occupé par plusieurs étudiants et renommé Gaza. L'UEJF, Union étudiante des Juifs de France, dénonce des actes et paroles antisémites à l'encontre d'élèves de confession juive. De son côté, l'établissement a dénoncé des actes commis dans son enceinte et dire vouloir saisir la section disciplinaire en vue de sanctionner ces agissements intolérables. Enfin, une situation qualifiée d'injuste pour les habitants de la vallée de la Roya. Un radar positionné sur une route reliant Menton en France à Tende en Italie a flashé des centaines de fois les mêmes habitants sans qu'ils ne le sachent. Ils ont été informés plusieurs mois après. Au total, 38 854 procès-verbaux ont été émis et majorés.
Mais c'est vrai que c'est magnifique, hein, la vallée de la Roya.
Ça taxe les voitures, mais pas les migrants.
Maureen, merci beaucoup. À demain jeudi.
À demain.
Merci.
Mercredi, demain.
Ah, demain, c'est mercredi ?
Demain, oui. Mercredi, Julien, oui. Ouais.
Ah, j'étais persuadé qu'on était mercredi.
Ah, non.
J'ai dit mercredi depuis tout à l'heure. J'ai dit qu'on est mercredi. Ben, bah, écoutez, pardon. Je vais me réveiller. Non, merci, Maureen. À demain, mercredi. Des impacts de balles sur l'entrée des immeubles. Des habitants sous le choc après une fusillade de plus d'une heure. Donc, hier, autour d'un point de deal, on vous montrait les images à Rennes. Je voudrais juste qu'on en reparle quelques instants parce que le procureur aujourd'hui a confirmé donc l'utilisation d'armes lourdes, de Kalachnikov dans ce quartier et des riverains interrogés de nouveau, donc qui sont totalement sous le choc et encore traumatisés par ces scènes de guerre. Regardez.
Ça tirait, c'est comme si c'était une guerre en fait. Ça tirait en bas de ma fenêtre. Ça tirait pendant au moins 30 minutes. Oui, je veux vraiment déménager. Franchement, je veux voir ça avec les assistants sociaux. Les enfants sont vraiment traumatisés.
D'entendre tous ces coups là, on n'est pas habitué à ça. Quoi. On dit, on voit ça à la télé, on ne voit pas ça chez nous. Et là, je peux vous dire que. C'est incroyable quoi, de voir des tubes, ça part de partout, ça. On a l'impression d'être. Et moi, j'en ai marre quoi. J'en ai marre d'avoir peur.
C'est horrible, Régis, traumatisme pour les habitants.
Bah, oui,
vous en avez entendu parler beaucoup
On en a déjà nous parlé hier.
Ouais, un petit peu. Ouais.
Là, on revient avec les témoignages qui sont absolument bouleversants. Moi, je signalais, je le répète, qu'il y a déjà eu des morts pour ce genre de contrôle de points de deal de personnes dans les immeubles. Ça s'était passé le 23 novembre dernier.
Et c'est un miracle que ça n'a pas été le cas, d'ailleurs, dimanche soir.
Stalingrad de Dijon, où un homme qui dormait a été tué dans son sommeil par un règlement de compte à un point de deal. Donc là, c'est bataille rangée. Visiblement, les deux victimes font partie d'un
réseau.
D'un réseau. Ils sont connus des services de police, mais quand on voit ces impacts, c'est l'argent, c'est tout ce qui est en train de se développer autour de la drogue en France, qui est absolument dramatique. Ah. En Europe en général, puisqu'on parle souvent de Marseille, on parle souvent d'une sorte de cartélisation de la France, mais il ne faut pas oublier Anvers, il ne faut pas oublier les ports par lesquels cette drogue arrive.
Le Havre de plus en plus.
Le Havre, les pressions qui sont faites pour aller sur les dockers, enfin il y a tout un réseau tentaculaire qui s'étend et qui dispose de finances infinies.
Et pour ne parler que de la France, dans quelle ville de notre pays, aujourd'hui, le trafic de drogue ne fait pas ce type de ravage ?
Il y a quand même des municipalités qui sont un peu plus conscientes qu'à Rennes ou à Nantes, d'ailleurs, c'est la même chose, des dégâts et des problèmes que provoque la délinquance d'une manière générale, et la drogue en particulier.
Tous les maires
ce qui est choquant quand même, c'est qu'il a fallu quasiment une heure, pour que les forces de police interviennent et arrivent. Je sais qu'il était très tard, mais il y a là il y a un problème. L'enquête dira ce qu'il faut en penser. Mais encore une fois, il y a une façon de considérer la délinquance dans ces villes, notamment de Rennes, où j'ai beaucoup d'amis qui me disent la même chose, et idem à Nantes, qui font que tout de même, si on prenait ces problèmes davantage en compte, et que la municipalité menait une politique un petit peu plus tournée vers ces phénomènes de délinquance, ça irait mieux.
J'ai entendu une anecdote aujourd'hui sur un plateau, un policier qui racontait qu'il y a une vingtaine d'années, il avait un collègue qui était un peu en fin de carrière, qui avait connu des grosses métropoles, et qui voulait peut-être finir dans un territoire un petit peu moins compliqué, et il a demandé à être muté à Rennes. Et je peux vous dire que 20 ans plus tard, il s'en mord les doigts. Écoutez David Levaux du syndicat SGP Police qui représente la zone Bretagne, justement.
C'est une guerre des territoires avec des mannes financières qui sont énormes et qu'aujourd'hui, on a des bandes qui s'affrontent. Et voilà, donc non, on ne va pas désengager. Le problématique qu'on a à Rennes, c'est qu'on a un manque d'effectifs criant. Il nous faudrait une 70 effectifs supplémentaires sur la voie publique et une trentaine d'enquêteurs, parce qu'encore une fois, le problème, il est toujours pris à l'envers. C'est que là, on met une CRS 82, c'est très bien, mais nos collègues, tous les jours, ils les harcèlent sur les points de deal. Il y a environ 14 points de deal sur le Blône. Tous les jours, ils sont harcelés, on arrive à en démanteler certains. Mais le problème, c'est que ça revient toujours en force, ça revient en puissance. Aujourd'hui, à Rennes, il faut prendre conscience que on n'est plus la petite ville ou la ville que les gens ont connue et les gens du quartier l'ont bien compris. Aujourd'hui, il nous faut des renforts rapidement, il faut qu'on réinvestisse le terrain, il faut qu'il y ait une réponse pénale adaptée, forte, puissante, pour que ces individus se sentent vraiment inquiétés.
Et oui, parce que tout ce qu'on fait depuis 40 ans ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? C'est la question, Gabriel.
Déjà, en préalable, je vois face à des scènes de guerre, oui, de guerre, c'est peut-être la guerre qu'il faudrait que nous menions à l'intérieur avant d'essayer de mener des guerres à l'extérieur, parce que cette guerre contre la drogue est en train de miner notre pays et visiblement, solution n'a pas été trouvée pour y remédier. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, ces villes que l'on croyait très calmes sont gangrénées par les trafics. On parlait de Nantes, de Rennes, mais même des villes d'importance moindre comme Lorient, Cherbourg, pour ne parler que de ce coin-là, mais c'est le propre Angers. Les villes moyennes commencent à être touchées. Il y a évidemment un déni quand même sur ces trafics. Il y a la peur d'enflammer les banlieues quand que la police débarque. Il y a la peur, et ça j'en suis certaine.
Soyons objectifs, Gabriel. Soyons objectifs, complètement objectifs. Rappelons que ces derniers jours, une énorme tête de réseau de la fameuse mafia Yoda marseillaise a été arrêtée, que 13 complices là ces dernières heures.
C'est mafia DZ là cette semaine.
J'ai dit quoi?
Oui, c'est la DZ hier et là le
d'accord, oui, voilà. Rival. Donc il y a des coups de filet qui sont en train.
Il
y a du travail qui est fait.
Il y a du travail quand même. Il y a du travail. Il faut le dire.
Bien sûr, heureusement que tout le monde se roule pas les pouces, mais quand vous en parlez aux forces de l'ordre, ils vous disent nous sommes en train de vider le tonneau des Danaïdes et de pousser le rocher de Sisyphe. C'est-à-dire que tous les jours, ça recommence. Et ce que vous avez dit de ces chefs, de ces caïds arrêtés, nous montre que il y en avait un qui était au Maroc.
Ils sont bien cachés.
Voilà, et que tout est autour de la matrice de tout ça. C'est quand même l'ouverture complète de nos frontières qui rend impossible de circonscrire le problème. Désolée de dire des choses inconvenantes, mais en réalité, si, tout le reste n'a pas grande signification si on ne commence pas par réussir à fermer nos frontières. Vous savez, la circulation des biens et des personnes et
la dissimulation de drogue, c'est un...
La French Connection, ça a 30 ans et c'était avant que l'immigration soit hors de contrôle.
Gabriel, c'était avant, précisément.
Pas. Non mais si par exemple, on parlait des ports il y a un
mais
instant.
Mais la drogue de l'Amérique latine. Non mais pardon, je veux aller jusqu'au bout de la démonstration.
Si tous les dockers sont corrompus à coup de milliers d'euros. Mais sur frontière ou pas, la drogue elle rentre.
Non, mais surtout, vous savez,
la guerre de la drogue, les 49 morts qu'il y a eu l'année dernière à Marseille sont dus à une guerre entre la mafia DZ et la mafia Yoda qui a commencé dans une boîte de nuit en Thaïlande. Donc là aussi, c'est complètement surréaliste. On est dans un...
ce que je veux dire, c'est que la drogue d'Amérique latine transite par le Maroc, par exemple, une guerre de plaque tournante, pour ensuite envoyer la drogue en Europe. Il faut quand même avoir conscience des sujets que personne n'aborde.
Pour conclure, et Pierre, vous réagirez, il y a eu cette semaine des déclarations choc de ces magistrats marseillais qui disaient en substance que la bataille était déjà perdue contre les trafiquants de drogue avec un défaitisme incroyable. Aujourd'hui, c'est le directeur de la gendarmerie nationale qu'on a pu entendre sur RTL qui fait pas exactement le même constat, mais qui nous dit qu'il y a de la drogue partout dans ce pays. Regardez.
On peut dire aujourd'hui qu'il y a de la drogue partout. Et c'est un vrai sujet parce que tous les trafics se nourrissent du trafic de drogue. Et c'est aussi l'une des priorités du ministre en France entière en réalité. Mmh. Et donc oui, on en a partout. Et oui, on essaie de développer des stratégies pour justement lutter contre ces trafics et neutraliser ceux qui les guident. Alors oui, des opérations PlaceNet qui ont été décidées fin septembre, début octobre. On en est à plus de 900 interpellations, près de 200 personnes qui ont été incarcérées. Ce qui est également nouveau, c'est que, y compris dans les zones où le trafic n'a pas atteint un niveau phénoménal, les endroits où on a des signaux faibles d'une économie souterraine qui se met en place, on peut harceler, commencer à y travailler, couper les racines et y revenir 3 mois après s'il le faut pour éviter que la drogue ne s'installe dans ces territoires.
Les résultats sont là. D'ailleurs, on peut montrer Pierre Lelouch les chiffres de l'OFAST sur la période du mois de janvier 2024. Oui, il y a des saisies, il y a des arrestations, des coups sont portés, si je puis dire, mais le trafic perdure et progresse, quand bien même, vous voyez que donc sur le mois de janvier, presque 4 tonnes de cannabis, plus de 600 kilos de cocaïne, et puis vous lisez avec moi jusqu'à 600 tonnes de cocaïne, pardon, jusqu'à des... revérifiez les amis les chiffres, parce que je crois que c'est... Non, c'est 600 kilos hein, de cocaïne. Revérifiez. Alors, on va le vérifier tout de suite, mais bon, peu importe. En tout cas, il y a des grosses saisies et du cash jusqu'à plus de 2 millions d'euros. Mais le trafic est là.
Et oui.
Pierre.
Oui, non.
C'est 632 000 kilos.
J'ai regardé ce que...
Donc 632 tonnes, pardon.
C'est ce que je pensais.
Autant pour moi. C'est pour moi.
Ce qui est en train de se passer avec notamment le rapport des magistrats de Marseille, j'ai l'impression qu'on commence à avoir en France une prise de conscience que ce problème mérite de changer complètement de braquet. Quand vous avez un trafic à hauteur de 3 ou 4 milliards d'euros par an, 300 000 emplois dans la drogue dans les quartiers en question, que ça a gangréné la totalité des villes et des villes moyennes du pays, on voit bien qu'il faut changer de braquet. Donc il faut une juridiction spéciale et pas des cours d'assises ou des cours pénales avec des jurés ordinaires.
Un plan anti-drogue.
Il faut... des repentis, un système à l'italienne. Il faut une coopération internationale bien plus poussée. Il faut une coordination des saisies et des contrôles sur la totalité des ports en Europe, notamment en Belgique, en Hollande et en France, parce que les points d'arrivée, on les connaît. Et il faut être beaucoup plus efficace aussi sur les pays de provenance. Je pense au Maroc, je pense aux Émirats, Dubaï. Et puis aussi, il y a un volet sur les consommateurs, parce que beaucoup des gens très bien, on en a vu quelques-uns qui ont eu quelques accidents de voiture récemment, des gens très bien de la coterie parisienne.
Ce sont mais oui, il n'y a même pas forcément besoin d'accidents de voiture, hein. Toutes les strates de la société.
C'est un scandale, non mais je veux dire quand même, il y a beaucoup de gens qui peuvent se payer
de
la coke, de l'héroïne, etc. Cela doit aussi sentir le poids de la justice. Donc il faut un travail de remobilisation de la nation, pour le coup c'est nécessaire, et une vraie politique d'ensemble qui est bien au-delà des efforts que font aujourd'hui les policiers, parce qu'ils se battent, mais pas avec les bonnes armes.
C'est vrai que
il faut qu'on change complètement de système avec des services dédiés, une justice dédiée et une coopération internationale digne de ce nom. Et je crois que ma voisine n'a pas tort de dire que là, il y a
une guerre intérieure. Elle a rarement
tort, votre voisine. Elle n'a pas tort, rarement tort. Mais elle a raison de dire qu'il y a une guerre intérieure qui est au moins aussi grave que ce qui se passe autour de nous.
Et peut-être que si un jour la justice se met à frapper fort, on verra peut-être un début de bout du tunnel. Mais en attendant, tous ceux qui sont proches de ces dossiers, je repense encore à ces magistrats, au directeur général de la gendarmerie, font des constats qui sont quand même
gravissimes.
Très gravissimes et surtout très pessimistes, je trouve, pour l'avenir et la façon dont on pourrait lutter contre.
Ce qui est paniquant, c'est que c'est la même chose en matière de santé, c'est la même chose à l'éducation nationale, c'est la même chose, bref, dans la plupart des services publics
plus,
et ailleurs. Je n'en jette plus et je m'arrête là. Mais c'est ça qui est très préoccupant, c'est
que ce
pays a le nez, je ne sais pas où, mais il n'est pas là où il devrait être.
Est-ce qu'on n'essaierait pas de retrouver un tout petit peu le sourire avant de conclure cette émission, de vous faire la revue de presse? Je voulais vous faire entendre la réponse de... C'est franchement... On va être très indulgent avec Madame El Haïry parce que ça peut arriver à tout le monde, qui était à l'Assemblée nationale, interpellée par Sandrine Rousseau aujourd'hui. Réponse marquée par un moment un peu embarrassant. La ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles a commis, on va dire, un lapsus. Allez.
La protection de l'enfance mérite mieux. Ne jetez pas l'opprobre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais... Madame la députée, nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels. Mais ne jetez pas l'opprobre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés.
Ça arrive au meilleur ?
Faut pas jeter l'eau propre avec l'eau du
bain. Pas mal. Vous en avez une autre?
Non.
Bon, on passe. Ça nous fait sourire et on passe sans commentaire.
Moi, j'ai entendu au propre.
Elle a dit au propre. Hein. Elle l'a dit deux fois.
Je le crains.
Visiblement, elle ne connaît pas le mot au propre.
Non, on va dire que c'est un lapsus. C'est peut-être une question de niveau, mais on va être élégant et dire que c'est probablement un lapsus.
Allons-y.
Oui. C'est le trac.
Oui,
pas de revue de presse, me dit-on, même si je la fais tout de suite? Ah. Allez, la revue de presse pour demain, les quotidiens dans vos kiosques. On jettera ni d'eau sale ni d'eau propre et on va rappeler que tiens, le Figaro nous parle que de l'autonomie de la Corse, la droite accuse Darmanin de mettre en péril l'unité de la République et la Cour des comptes qui réclame 50 milliards d'économies. On va serrer la ceinture. Aujourd'hui en France, Le Parisien en avance, me dit-on en régie. Stéphane Plaza entendu pour des violences conjugales et puis les contrôleurs qui ont la main lourde donc en termes d'amende, nous dit-on à la SNCF et la RATP. À lire dans Le Parisien aujourd'hui, les Échos, les nouvelles ambitions de Décathlon, à lire également la presse régionale Ouest-France d'abord. Pourquoi la SNCF manque-t-elle de trains? Tiens, question intéressante. On va lire ça très attentivement. Les DNA qui nous parlent du soutien à l'Ukraine voté dans une assemblée divisée, on en a largement parlé. Des plans climat améliorés également pour le quotidien alsacien. Nice matin, la sécheresse s'éloigne. Lac et rivières. Oui, Nice matin. Moi, j'ai Nice matin là dans les mains. Mais alors, Corse matin, la route est tracée. Le Sofitel, objet de convoitise. Eh bien, écoutez, passionnant. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on a du coup? Parce que moi, j'ai pas le même ordre que vous. Voilà, la sécheresse s'éloigne. Les lacs et rivières remplis, neige abondante. Se dirige-t-on vers un été sans restrictions? Eh bien, il faut prier pour Nice à Paris pour un exploit en Coupe de France. Ah, c'est Nice, pas PSG Nice en Coupe de France. Je savais pas. On regardera ça attentivement. Et puis, la sécheresse s'éloigne pour voir matin, rivière et nappe. Bah, c'est un peu les mêmes titres que pour Nice. Ce matin, voire matin, c'est les mêmes éditions. D'accord. Eh bien, merci les amis pour cette revue de presse complète. On remercie Martin Mazur. Je vais le câliner, Martin Mazur, parce qu'il a des moments difficiles en ce moment sportivement. Donc, on va lui souhaiter bon courage. Maxime Fer, qui est excellent également, tout comme Martin. Donc, Coralie Deleplace, qui nous aide énormément. Merci à tous.
Merci Julien.
Bravo pour la cravate, hein. Régis, vraiment, c'est subjugant.
Ah ouais. Nous, on n'est pas beau.
Non, mais lui, je le vois toujours avec sa chemise ouverte à la BHL, donc c'est pour ça. Ouais. 23h47, j'espère que je ne rends pas trop tard l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis, l'édition de la nuit avec Simon Guélin. Rendez-vous demain, mercredi, pour Soir Info.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.